écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative réalisée par Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous. En ce mardi 28 octobre, nous vous proposons une interview mode et design réalisée par Margot. Elle est allée à un vernissage un peu spécial dont je vous laisse découvrir les coulisses. Nous, on se retrouve juste après Odorico de Vondi pour la chronique du jour, et elle est sportive cette fois-ci.
Je suis ce soir à Icône Friperie en compagnie de Fabienne, gérante de la friperie. Fabienne, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pourquoi on est ici ce soir? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de où on est?
Eh bien, on est à Icône Friperie Expo. Donc, c'est un peu la caractéristique de la friperie Icône, c'est qu'on fait de l'expo également, puisqu'on a un bel espace qu'on peut exposer de jolies choses.
Ce soir, c'est des étudiants de l'ESAD qui sont venus exposer. Est-ce que tu as un partenariat avec l'ESAD? Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble?
Oui, c'est la troisième édition en fait qu'on fait avec les étudiants de master à l'ESAD. C'est plutôt sympa parce que du même temps, le club Mix ESAD mixe et des étudiants qui exposent autour de la sensibilisation, autour de l'éco-responsabilité, ce qui est un peu notre cheval de bataille ici chez Icône, c'est que consommer seconde main et consommer éthique, ça nous paraît essentiel et on le défend au quotidien.
C'est quoi le point de départ de ton projet? Ça fait combien de temps que tu as ouvert cette friperie?
Ça fait un petit peu plus de deux ans qu'on est ouvert et le point de départ c'est que éthiquement effectivement je défendais cette idée de pouvoir arrêter de consommer du neuf et arrêter surtout de consommer de la fast fashion. Et le projet est parti de là, d'avoir envie aussi d'emporter aussi d'autres gens dans l'idée d'arrêter d'être dans la surconsommation, d'avoir la conscience de consommer des choses qui sont existantes en fait et d'arrêter d'aller consommer du neuf alors que plein de choses belles et jolies et aussi surtout beaucoup plus qualitatives existent déjà.
Est-ce que tu proposes d'autres types d'expos dans l'année et quel type d'artistes est-ce que tu fais venir dans ta friperie?
Alors effectivement, il y a des expos en moyenne tous les un mois et demi, deux mois, nouvelles dans la fripe. C'est différents artistes, après ça peut être de la photo, de la peinture, de l'aquarelle. On a eu aussi, on a plein de choses qui... Ça varie suivant les périodes de l'année et c'est plutôt chouette parce que ça fait aussi découvrir des artistes locaux mais aussi des artistes un petit peu qui viennent d'ailleurs et surtout ça donne une atmosphère différente suivant les mois, les saisons et ça c'est plutôt appréciable et aussi ce qu'apprécient les artistes, c'est pouvoir aussi avoir la reconnaissance de leur travail, pouvoir vendre des petites choses et tout, ouvrir à d'autres publics en fait, ce qui ne sont pas forcément connus et c'est plutôt chouette quoi.
Jusqu'à quand est-ce qu'on peut venir voir l'expo et comment est-ce que c'est accessible? Est-ce que tu peux nous dire où venir?
Alors, on peut venir voir, du coup, on est ouvert tous les jours du mardi au samedi de 11h à 19h. Et l'expo, sera visible jusque fin novembre, à peu près jusqu'au 28 novembre.
Et quel est l'intérêt pour toi de les exposer et qu'est-ce que ça t'apporte? C'est quoi l'objectif de ce partenariat avec l'ESAD?
Alors, l'objectif du partenariat avec l'ESAD, c'est qu'en fait... Je trouve que c'est plutôt intéressant parce que le design éthique responsable, en fait, c'est une forme d'ouverture pour eux de pouvoir exposer des choses qui à la fois les sensibilisent autour de l'éco-responsabilité et le design. En fait, mêler les choses, ces deux choses-là, ça me semble essentiel, quoi. Après... Après, effectivement, là, mon public étudiant, pour moi, c'est mon public du quotidien. Effectivement, les gens que j'accueille, les clients que j'accueille essentiellement chez Icône Friperie, c'est des moins de 30 ans. C'est mon public cible, donc forcément, on bichonne beaucoup les étudiants. D'ailleurs, on fait un 10% étudiant ce soir et 10% étudiant tous les mardis sur la friperie, parce que on sait que c'est un public qui va vers justement ces modes de consommation.
Bonjour Noé et Colline, vous êtes tous les deux étudiants en 4e année à l'ESAD d'Amiens, École supérieure art et design, et vous exposez vos créations ici à Icône Friperie. Bonsoir.
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 Donc on est là pour le vernissage de votre exposition. Je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu ce que vous exposez ce soir ?
Alors moi j'expose des vêtements upcyclés, des vêtements de seconde main que j'ai trouvés durant un été dans des fripes et des déstockages. Et j'imprime dessus avec des petites illustrations gravées dans de la linogravure que je viens disposer un peu où je veux. Sur chaque vêtement, ça change un peu l'emplacement avec différentes couleurs. C'est des illustrations un peu d'été parce que j'ai réalisé ça l'été un peu homemade à la maison. C'était l'idée d'un projet un peu fun. Et du coup, on retrouve différentes pièces dans l'expo et aussi un petit atelier là le temps du vernissage pour que les gens fassent eux-mêmes leur propre custom.
Donc quel matériel est-ce que tu utilises ?
Le linoléum, c'est ce qu'on retrouve de base dans les sols de salle de bain par exemple. Et dans l'art, tout ça, on retrouve des plaques de gomme un peu en vente. Et puis moi, j'ai découvert ça il y a 2-3 ans. Et je trouvais ça super fun qu'on peut venir enlever de la matière et créer toutes les formes qu'on veut derrière. Je trouvais ça super cool, quoi. Du coup, j'ai un peu exploré ça quand je l'ai découvert et je me suis dit, pourquoi pas. J'avais trop envie de faire des vêtements, donc c'est l'outil un peu homemade pour en faire qui est un peu une alternative à la sérigraphie, pour le coup, que je trouvais cool.
Et toi, Noé, du coup, tu exposes quoi ce soir ?
Eh ben moi, c'est des photos, en fait, qui sont issues de ma pratique quotidienne, parce que du coup, je fais des photos un peu tous les jours pour le kiff. Et en fait, ce qui a été hyper intéressant avec ce partenariat, c'est du coup de parler de mode, et moi je fais beaucoup de photos de mode, et du coup ce qui a été hyper intéressant, c'est de lier cette pratique autour du vêtement de la seconde main, et du coup de montrer des personnes qui portent ces vêtements de seconde main dans un sens un peu plus sexy, on va dire, que la fripe ou toutes les autres acteurs de seconde main, de les montrer un peu comme des photos de mode. Et c'est ça qui m'a toujours un peu inspiré dans la mode, et j'ai de la chance, je suis entouré de plein de personnes qui portent des vêtements de seconde main. Du coup, j'ai de la chance de pouvoir tous les jours prendre des photos de mode, de seconde main, et c'est ça un peu que je présente ce soir.
D'où est-ce que vous tenez vos inspirations ?
Moi, j'avais vu pas mal de boulot au moment où je cherchais sur Instagram, notamment en Angleterre, des filles qui faisaient justement ce genre de système de petits modules d'illustration imprimés sur textile, que je trouvais ça super bien. Mais après, pour tout ce qui est illustration, c'est de l'illustration de carnet de croquis, c'est plein de choses que j'ai dessinées au courant de l'année, que j'ai repris, j'ai retravaillé, simplifié des fois pour la lino parce qu'on peut moins avoir de détails. Mais voilà.
Et toi, Noé, du coup, tu disais que tu trouvais aussi tes inspirations. T'as des amis, du coup, qui portent beaucoup de vêtements de seconde main, ce qui est vraiment en corrélation avec l'univers Icône Friperie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, moi, mes inspirations ne sont pas hyper, hyper seconde main, mais à la base, je suis hyper fan de tout ce qui est photographie de nourriture des années 70 qu'on trouvait dans les livres de cuisine. Gros flash, tous ces trucs-là. Après, je suis dans des acteurs aussi assez contemporains comme Martine Parr ou plus récemment Guillaume Blot. Donc, c'est toute cette photo flash hyper frontal, parfois un peu dégueulasse, j'aime bien le dire aussi, et d'aller vraiment au cœur de l'événement et au cœur de la gestualité des gens, et pas leur demander de poser justement, mais d'être vraiment dans le moment, et c'est ça qui m'intéresse. Et ouais, vraiment, j'ai peu de photographes, mais c'est vrai que Martine Parr, ça reste quand même une grosse influence pour moi.
Et comment est-ce que vous avez été amené à exposer ensemble ce soir à Icône Friperie ?
Bah, c'était un partenariat en fait que les SAD avaient avec, depuis quelques années avec, avec Icône Friperie. Et du coup, Fabienne qui gère les Icônes Friperie nous a envoyé un mail en disant envoyez vos projets selon un cahier des charges lié à l'écologie, à la fast fashion, tout ça. En fait, nous, on y a répondu et il s'avère qu'on a été sélectionnés. Et du coup, on est hyper heureux, comme toi, je pense, d'avoir été sélectionnés ce soir.
Et comment est-ce que toi, tu perçois le travail de Noé? Comment est-ce que tu en parlerais, Colline?
Je connais son travail déjà depuis pas si longtemps que ça, parce qu'on se connaît depuis quelques semaines, mais avant, j'avais déjà vu passer sur Insta. C'est vrai que cette requête de photos quotidiennes, presque, c'est quelque chose que je voyais qu'il faisait. Et au final, en quelques semaines, j'ai pu découvrir que oui, il a son appareil photo tout le temps et il est tout le temps là à prendre des photos, un peu, même des fois où tu t'y attends pas, t'es pas prêt. C'est un peu ça qui est cool, c'est le moment capturé sur le vif qui n'était pas prévu pour le shooting et des cadrages un peu bancals des fois. Et je trouve que c'est assez cool, c'est brut. C'est peut-être le mot, ouais, c'est un esprit brut mais réel et authentique. Enfin, il n'y a pas forcément derrière de retouches esthétiques fortes comme certains photographes, c'est du réel et du mouvement, de la vie.
Et Noé, toi, comment est-ce que tu décrirais le travail de Colline?
Moi, je trouve ça hyper intéressant en fait de pouvoir amener. En fait, on connaît pour beaucoup, les gens connaissent la sérigraphie et l'impression textile et ainsi de suite. Et là, d'amener les gens à faire eux-mêmes les choses avec des illustrations. Et je trouve que les illustrations sont hyper bien réalisées. Et en fait, d'amener les gens à faire quelque chose et de leur expliquer comment c'est fait et de se dire que, genre, en fait, il y a un moyen plus artisanal de le faire et il y a un réel travail qui est même pas. Parce que la sérigraphie, c'est pas industriel non plus, c'est fait à la main aussi, mais ça peut devenir industriel avec le temps. Mais là, vraiment, on est dans un rapport entre le vêtement en soi et d'imprimer des choses qu'on vient creuser à la main et tout. Je trouve ça hyper intéressant dans la technique et même dans les illustrations. Je trouve que c'est hyper, hyper léger. On a envie de se dire, tiens, si je me faisais un silus là comme ça dessus, et c'est super cool. Quoi.
C'est quoi la différence avec la sérigraphie? Ça marche comment, la sérigraphie?
Mais en fait, la sérigraphie, il y a un cadre qui est préparé, il y a besoin d'avoir une insolation, tout ça. Là, c'est vraiment la personne qui vient creuser le motif. Après, je pense que Colline, elle en parlerait mieux que moi.
Ouais, c'est ça. Il y a moins d'intermédiaires et tu réalises tout. Enfin, il n'y a pas besoin d'autant de produits que la sérigraphie. C'est aussi plus abordable parce qu'un cadre de sérigraphie, ça coûte assez cher. Des fois, les encres aussi. Et il faut un peu de matos pour pouvoir le faire. C'est faisable, mais c'est vrai que la lino, il y a ce truc où on peut très très facilement pouvoir en faire aussi chez soi et par le procédé en reproduire aussi assez facilement avec nos petites mains sans avoir une grosse installation derrière.
Et sinon, vous menez quoi d'autre comme type de projet en ce moment?
Toujours un peu la même chose. Nous, on est en école de graphisme, du graphisme de la photo. Après, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Nous, on est dans une restrictive de budget liée à l'État, en fait, et c'est assez compliqué de mener des projets avec ça. Mais néanmoins, on est hyper content d'avoir ce partenariat parce que ça nous donne de la visibilité pour des étudiants en art. C'est hyper important. Mais ça va être beaucoup d'éditions, personnellement, beaucoup de photographies. Et là, en fait, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas l'habitude d'imprimer mes photos. Et là, en fait, ça donne l'occasion de les imprimer, de les montrer aux gens. Et c'est ça qui est super intéressant.
Ouais, c'est ça. On fait pas mal de choses, même là, à l'école. C'est vrai que du coup, on a pas mal de projets. Donc, le perso est un peu de côté actuellement. Mais c'est le cas du DNSEP, quoi, du master. Et à côté, moi, j'aime bien continuer. Ce projet-là, c'était sur un été. C'est du temps où j'ai du temps à consacrer pour des choses. Et je me dis, je tente autre chose que je ferais pas autrement. Et puis, en autre petit projet, c'est ce qui se propose. L'école, pour le coup, est source de beaucoup de projets. Donc là, il y a pas mal de choses qui se font liées à ça. De rencontres, d'organisation d'expositions comme celle-ci ou d'autres dans d'autres villes. Donc, c'est vrai que des projets en ce moment, on en a plein, mais qui sont pas forcément de nous-mêmes, en tout cas auto-initiés.
Et qu'est-ce que vous diriez à nos auditeuristes pour leur donner envie de venir voir l'exposition? Qu'est-ce que vous pourriez ajouter?
C'est dans une fripe en tout proche du centre d'Amiens, dans le centre même, qu'il y a une chouette ambiance en tout cas ce soir, qu'il y a des chouettes photos, des chouettes vêtements et aussi une chouette équipe souriante et accueillante. Et puis même si on ne trouve pas forcément toujours notre bonheur, on finit toujours par apprécier le passage ici. Dans une ville comme Amiens, c'est découvrir aussi des artistes, c'est intéressant je trouve, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à aller voir, en tout cas dans ce qui se fait de local. Et du coup, je trouve ça intéressant que Fabienne fasse ça dans sa boutique, accueille chaque mois des gens. Je trouve ça hyper valorisant aussi pour cela et pour nous ce mois-ci.
À l'occasion de ce vernissage, le Club Mix EZAD était aussi présent pour animer la soirée. Je suis donc en compagnie de Romain. Salut Romain.
Bonsoir.
Alors, je te laisse te présenter.
Alors moi, je suis étudiant en 5e année à l'EZAD d'Amiens et je suis aussi organisateur dans le Club Mix de l'EZAD qui est présent pour cet événement.
Alors, c'est quoi le Club Mix EZAD ?
Le Club Mix EZAD, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation de DJ non professionnels, comme je disais. Et on apprend aussi à faire des pratiques plus visuelles comme le VJing et on fait aussi toute la communication autour de nos événements. Donc c'est une asso étudiante, on se prend vraiment pas au sérieux et on apprend au nouveau. On pouvait entendre la musique derrière, je sais pas si on entendra. C'est une asso étudiante de l'ESAD d'Amiens et on se fait kiffer quoi.
Et ça fait combien de temps que ça existe ?
Ça fait maintenant, là c'est la troisième année là.
Et c'est toi qui as créé cet asso ?
Oui, il y a 2 ans et là je suis plus tout seul dans la tête de l'association. Je me fais aider aussi par d'autres gens, heureusement d'ailleurs.
Et qui mixe ce soir ? Qui fait partie de votre équipe ? Vous êtes combien un peu dans le Club Mix EZ ?
Alors, moi j'ai passé un petit peu de son et sinon il y avait... C'est Noé qui mixe, mais qui est en collab avec Arthur dans le B2B Radine et Vulgaire. Voilà, c'est leur nom de scène. Et il y a aussi Antoine et Lucas qui ont mixé.
Et qu'est-ce que ça apporte votre présence ce soir à l'expo ?
Ça apporte surtout des spectateurs, je pense. Hein. De l'ambiance, je l'espère. Et j'espère que ça attire un peu de monde. Parce que nous, on fait notre communication aussi par rapport à ça. Et on a envie que les gens passent une bonne soirée. Quoi.
C'est quoi les événements à venir pour le Club Mix du coup de l'EZ ?
Alors les événements à venir, on a fait une petite collab avec Radio Campus d'ailleurs. Du coup ça va arriver sûrement, on est en train d'organiser tout ça. Et sinon on est assez connecté avec les scènes un petit peu underground d'Amiens, comme Les Yeux, L'Accueil Froid et tout. Et ouais, on a envie d'organiser tout ça. Là la programmation elle est en train de se faire, mais ça arrive.
Merci beaucoup Romain d'avoir répondu à toutes mes questions et puis bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Maybe I'll find you.
Toujours sur le 87.7 FM à l'écoute d'Info Club Sandwich. Avant de se quitter, je vous propose une petite chronique sport, car figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du judo. Et oui, pour ce mardi 28 octobre, revêtez votre judogi, à ne pas confondre avec le kimono, qui désigne l'intégralité des vêtements traditionnels japonais et non uniquement la tenue d'arts martiaux. Un peu d'étymologie avant de commencer, le gi veut dire vêtement, donc le judogi signifie tout simplement tenue de judo. On ne fait pas plus évident. Créée en 2011 par la Fédération internationale du judo, cette journée célèbre chaque année non seulement un sport, mais surtout un état d'esprit. Chaque édition a son thème, le respect pour la première en 2011, puis le courage, la solidarité, le judo pour tous, etc. L'idée est simple, rappeler que le judo, ce n'est pas seulement un affrontement physique, c'est une philosophie qui se pratique autant dans la vie que sur le tapis. Mais avant de parler du judo d'aujourd'hui, revenons à celui d'hier. Car tout commence au Japon à la fin du 19e siècle avec Jigoro Kano. Né en 1860, il est souvent malmené à l'école. Pour apprendre à se défendre, il utilise le jujitsu, cet art martial des samouraïs fait de projections et de clés. Mais Kano a une idée révolutionnaire, et si au lieu d'apprendre à blesser ou à vaincre, on apprenait à se construire soi-même. En 1882, à seulement 22 ans, il fonde le Kodokan, un petit dojo de 12 tatamis dans un temple bouddhiste à Tokyo. C'est là qu'il pose les bases de ce qu'il appelle le judo, la voie de la souplesse. Un mot, do, qui change tout. On ne parle plus d'un art de guerre, mais d'un chemin d'éducation, une pratique physique qui vise à faire grandir l'esprit. Sa philosophie repose sur deux piliers. D'abord, la meilleure utilisation de l'énergie. Je vous passe la version originale en japonais. Autrement dit, être efficace sans gaspiller sa force, utiliser la souplesse contre la rigidité. Et ensuite, l'entraide et la prospérité mutuelle. On ne progresse jamais seul, même l'adversaire devient partenaire. Sans lui, pas d'apprentissage, et c'est sans doute ce qui fait la beauté du judo. On s'y bat l'un contre l'autre, mais on avance ensemble. Et cette vision, Jigoro Kano va la porter bien au-delà du tatami. Il deviendra professeur, réformateur, diplomate, et même le premier japonais membre du Comité international olympique. Son rêve, que le sport serve à éduquer, à relier les cultures, à transmettre le respect. Bref, faire du judo un outil d'humanité. Aujourd'hui, plus de 140 ans plus tard, on peut dire que son pari est réussi. Le judo est pratiqué par plus de 30 millions de personnes à travers le monde, dont 535 946 licenciés en 2024 en France. Il est devenu un sport olympique en 1964, lors des Jeux de Tokyo. Sur les tatamis, on trouve des enfants de 6 ans, des vétérans de 60, des athlètes handisport, des femmes, des hommes, des pratiquants venus de tous les continents. Le judo, c'est peut-être l'un des sports les plus universels sur Terre. Mais comme tout art martial, il a évolué. Au fil du temps, les règles ont été ajustées, les prises dangereuses du jiu-jitsu ont disparu, les catégories de poids ont été affinées et les combats sont devenus plus dynamiques et plus spectaculaires. La vidéo a également fait son entrée pour assurer un arbitrage plus juste. Le judo s'est ouvert à la haute performance avec des athlètes capables d'enchaîner puissance, technique et stratégie. Les mouvements sont plus explosifs également, les hippons sont plus rapides et la recherche du spectacle est assumée, tout en préservant tout de même les valeurs fondamentales de respect, de contrôle et de fair play. Au-delà de la compétition, le judo d'aujourd'hui c'est aussi un formidable outil social et éducatif. Dans les écoles, il apprend la discipline et la confiance. Dans les quartiers, il crée du lien et canalise l'énergie. Dans les prisons, il aide à la réinsertion. Dans le handisport, il prouve également que le dépassement de soi n'a pas de limite. C'est un sport accessible à tous et à toutes et c'est exactement ce que la Fédération internationale met en avant lors de cette journée mondiale. Quel que soit ton âge, ton sexe, ta condition, tu peux monter sur le tapis avec les mêmes chances et le même respect. Et côté performance, la France n'est pas en reste. Le judo, c'est l'un des sports où l'hexagone brille le plus aux Jeux Olympiques. Des noms comme David Douillet, Lucie Descosses, Clarisse Agbenenou, Marie-Claire Restou ou bien sûr Teddy Riner font partie de la légende. Et c'est ça, la force du judo moderne. Il a su garder son âme tout en se réinventant à l'heure des réseaux sociaux et de la surenchère, le judo continue d'enseigner l'humilité. À une époque où tout doit aller vite, il rappelle la valeur de la patience, du travail, du silence avant le geste. Et dans un monde souvent divisé, il reste un espace de rencontre. Deux personnes de cultures différentes se saluent, s'affrontent, puis se relèvent ensemble. Alors oui, la journée mondiale du judo, ce n'est pas juste une date sur un calendrier sportif, c'est un rappel. Celui que Jigoro Kano avait formulé il y a plus d'un siècle. Que le vrai but du judo n'est pas de vaincre, mais de s'élever. Et souvenez-vous de ce qu'il disait, le judo, c'est l'art de tomber 7 fois et de se relever 8. Voilà, c'est sur ces mots que se termine Info Club Sandwich. Restez à l'écoute de Radio Campus Amiens, on se retrouve demain pour une nouvelle émission où l'on reçoit un groupe de jeunes rappeurs. En attendant, on se quitte avec The Light, une musique de Sophie and the Giants. Bonne journée sur le 87.7.
Got me breathless, but I'm still breathing. My heavy heart is weak, but not beaten. Getting restless with this feeling. I was broken, but now I'm healing. You're lost and frightened. But when I ask, you say that you're just tired. Eyes that shone like no.